9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Mélissa Thoriot.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes productrice au sein de 416 Productions. Votre champ d'action et d'intérêt sont des documentaires autour de grandes causes, notamment l'enfance. Et justement, dans le cadre de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, ce sera après-demain jeudi, le 10 novembre. Vous produisez un doc poignant, mais également très énergisant. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas plein d'espoir. Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent. Ce sera diffusé demain à 23h sur France 2 dans le cadre des soirées infrarouges portées par Marie Drucker. Documentaire réalisé par Guillaume Estivi. Bonjour.
Bonjour.
Documentaire qui propose une autre façon d'affronter le harcèlement, non pas en mode passif, mais en mode actif. Mélissa Thoriot, expliquez-nous en quelques mots, en quelques phrases, le principe.
Oui, on a saisi l'occasion de cette grande semaine consacrée au harcèlement pour investir, en effet, proposer un angle de lumière et de solution. C'est-à-dire qu'on s'est tourné vers une thérapeute qui propose vraiment d'outiller des enfants face à un chagrin, un isolement scolaire qui est de plus en plus grand. C'est surtout ça la majorité des enfants qui souffrent. Et se préparer aussi au monde adulte. Je ne connais pas une seule personne, qu'elle ait vécu du harcèlement ou non, qui n'est pas confrontée à un moment à la souffrance relationnelle, que
évidemment.
Ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Et donc elle outille les enfants en quelques séances. Et on trouvait que c'était formidable avec Guillaume d'illustrer et de donner des outils aux ados, aux enfants et aux parents, souvent démunis, qui vont nous regarder.
Le doc porte le sous-titre « Les Indiens contre-attaquent ». On va expliciter dans un instant qui sont ces Indiens. Guillaume Estivi, comment vous avez travaillé techniquement? On va entendre du son, mais je voudrais que vous décriviez le dispositif d'interview. Au premier plan, il y a la thérapeute.
C'est ça, parce qu'en fait l'idée c'était forcément de laisser les enfants anonymes, puisque bon, c'est des enfants en souffrance, donc il y avait quand même un grand danger de les filmer à visage découvert. Et donc l'idée, je voulais, effectivement, c'est d'avoir un plan fixe avec l'enfant de dos anonyme, forcément donc, et la thérapeute de face, pour qu'on ait vraiment l'interaction, parce qu'elle, elle est très très expressive, elle est très très en complicité avec les enfants.
Ouais.
Et du coup, tout ça, ça transparaît à travers son visage.
Et ce que je trouve de formidable, c'est que du coup, comme il est anonymisé cet enfant, il n'y a pas de floutage, et on ne le sent pas comme une victime. On le sent comme actif. Alors, cette personne dont on parle qui est formidable, elle s'appelle Emmanuelle Piquet. Qui est-elle? Comment l'avez-vous rencontrée? C'est venu de qui?
C'est conjoint à nos recherches ensemble. Moi, je voulais que Guillaume s'intéresse de près, parce que j'ai déjà produit des films de Guillaume Estivi et j'adore son talent, sa poésie, le décalage aussi, l'écoute particulière qu'il peut avoir envers des intervenants. Et Guillaume n'a pas du tout connu de souffrance à l'école. Je l'ai connu, moi. Et j'ai trouvé que c'était complémentaire aussi dans le regard qu'on portait tous les deux. Parce que je suis hypersensible sur ce sujet-là. C'est un fléau. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour les enfants qui m'entourent. Et Guillaume avait une candeur de découverte, de chagrin et de souffrance qui touchait des tout petits jusqu'aux grands. Et c'était très intéressant de confronter nos points de vue et de se dire, tiens, Emmanuelle Piquet, elle n'est pas à Paris, elle est à Mâcon. Mais ce qu'elle propose comme thérapie, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et c'est là où la rencontre a pu se faire. Et c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas. C'est quelqu'un qui vous marque, Emmanuelle Piquet.
Elle a créé les centres chagrin scolaire. Il y en a à Mâcon, il y en a également maintenant désormais à Lyon, à Paris, à Lille.
Oui.
Alors, on va expliciter le titre. Les Indiens contre-attaquent, c'est le sous-titre de votre documentaire, Guillaume. Comme les Indiens et leur arc, ils ont des flèches. C'est quoi les flèches?
Alors, ce qu'Emmanuelle appelle les flèches, c'est des sortes de répliques, donc basées sur l'autodérision. Souvent, l'humour. L'idée, c'est vraiment de donner à l'enfant des outils pour déjà, à la base, et ce qui est un peu le principe même de sa méthode, de changer de posture. C'est-à-dire que dès que l'enfant est outillé, donc il a une espèce de carquois, on va dire, avec des flèches, tout de suite, rien que physiquement, il change de posture. Et il est en position un petit peu d'attente de l'attaque du harceleur. Et parfois, dans 50% des cas, je crois que Manuel a pu constater, l'enfant n'a même pas besoin de décocher la flèche. Rien que le fait de se tenir différemment et d'agir différemment, de ne plus raser les murs, ça change complètement le...
Alors, on va entendre la manière de faire d'Emmanuelle Piquet. Là, elle est dans son bureau avec un petit garçon. Donc, il s'appelle Maxime, il est au CE2. Et à l'école, il y a une fille qui embête ce petit Maxime. Elle s'appelle Mélanie. Et la thérapeute demande à Maxime, déjà, ça m'a frappé, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcière Mélanie? Qu'est-ce qu'elle te fait? On écoute la réponse de Maxime.
Elle vient, elle m'insulte.
Ouais,
et après, elle me dit des trucs méchants.
Des trucs méchants?
Nique ta mère.
Nique ta mère?
Oui. Nique ta sœur.
Nique ta sœur.
Ta gueule.
Ta gueule.
Paniquer ton père.
Ah, ton père aussi. Donc tout le monde, en fait.
Oui.
Donc ça, elle aime bien, hein, vaniquer. Ça, elle aime bien.
Alors déjà, on ne parlait pas comme ça quand moi j'étais au CE2. je connaissais peut-être même pas le verbe. Et alors, la thérapeute Emmanuelle Piquet, elle écoute Maxime. elle réfléchit, vous laissez le temps à l'image de cette réflexion, et elle propose une parade à Maxime pour contrer la méchante Mélanie. On l'écoute.
Imagine que donc elle vienne vous voir pendant que vous jouez, et que vous, avant qu'elle fasse quelque chose, avant qu'elle dise quelque chose, vous disiez « Ah tiens, voilà madame Nick-Nick ». Parce que tu sais, comme elle dit toujours « Nick ta mère, Nick ta sœur » et tout. Donc j'arrive et je dis « Gros con, là. Vas-y. »
Tu sais dire que ça ?
Ouais, dis « Tiens, voilà madame Nick-Nick ».
Tu sais dire que ça ?
Ouais. Vas-y.
Dis-nous des gros mots.
Dis-nous des gros mots, on adore. Vas-y, continue. Excellent. On le refait un peu plus fort ? Un peu en criant. Un peu.
Alors, c'est la première leçon. Il est un peu flottant, le Maxime. Déjà, dire des choses comme ça, ça lui était jamais arrivé. Et pourtant, ça fonctionne.
Oui, et puis j'ai l'impression aussi que lui, on n'a pas l'habitude de lui parler comme ça, déjà, de l'écouter comme ça dans la continuité. Et du coup, c'est vrai qu'Emmanuel, elle a un côté un petit peu, on va dire, punk, ou en tout cas, elle n'hésite pas. À dire des gros mots pour vraiment s'immerger dans la cour de récré avec les gamins. Et c'est un petit peu cette complicité qui, je pense, marche et qui fait que les enfants arrivent à se confier et petit à petit à décocher cette fameuse flèche, alors qu'au début, effectivement, c'est un peu compliqué.
Et la stratégie, justement, de cette thérapeute, Emmanuel Piquet, c'est de dire que l'agresseur ou l'agresseuse, en l'occurrence, c'est une agresseuse là, mais il y a aussi plein de fois, sont des agresseurs, c'est dans l'autre sens, n'aient plus aucun intérêt à venir agresser. Parce que cette petite jouissance morbide de se sentir supérieur aux autres, il ou elle ne l'aura plus.
Et oui, le règne, on tombe du trône. Et on change sans doute d'enfant, donc on ne règle pas le problème dans sa totalité. Mais l'idée, c'est que l'enfant se dise « mon estime de moi n'a pas été assez abîmée ». Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez choisi comme extrait, c'est pile ce qu'un parent ne fera pas. Vous verrez rarement une maman ou un papa dire « bon, ben alors il nique ton père, dis-lui madame Nick-Nick ». Et c'est ça où l'enfant va se sentir autorisé d'aller plus loin dans la confession. Et elle va s'autoriser à dire « écoute, personne ne doit te défendre, c'est à toi d'y arriver. »
Alors ce doc n'est pas non plus un documentaire à la gloire d'Emmanuel Piquet, il y a d'autres intervenants, d'autres stratégies, on continue d'en parler. Mélissa Thuriot, Guillaume et Stevie sont dans la place, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Super.
Je reconnais Guillaume Estivi, le réalisateur de ce doc. Faut que je retrouve le titre. Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent. C'est Agnès Meyer, une institutrice qui apprend aux enfants la posture de l'ours qui crie. De quoi s'agit-il ?
Bah, la posture de l'ours qui crie, c'est toujours cette idée que le langage non-verbal est aussi, dans le harcèlement, hyper important. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un qui va avoir une attitude un petit peu soumise et qui va raser les murs, peut-être que le harceleur éventuel va choisir sa cible en fonction de ça. Donc l'idée, c'est de les préparer déjà à l'entre-collège, parce qu'eux, ils sont déjà, bon, ils sont en CM1, ceux-là, ils ont déjà très très peur du collège, ils en parlent déjà beaucoup, parce que le collège, on va se faire harceler, il y a déjà ça qui est vraiment ancré en eux. Donc l'idée d'Agnès, c'est de faire des petits ateliers comme ça, récréatifs, hein, c'est quand même assez joyeux, pour les préparer déjà à s'ouvrir, à réagir en cas de harcèlement et à faire cette fameuse posture de l'ours, donc se tenir droit, relever la tête, ce qui nous plaisait dans ce film aussi, puisque l'idée, c'était de faire un film sur le harcèlement, mais du côté positif et des solutions. Quoi.
Ouais, alors, puisque vous parlez du collège, je dois dire, il y a certains passages de votre documentaire qui fendent le cœur en deux. En tout cas, c'est le fait que ça m'a fait. Exemple, Auguste, il est en quatrième dans un collège. Il raconte comment c'était en sixième et en cinquième. On se moquait de lui, à l'époque, dans le collège.
Ça n'a pas dû être simple, quoi, les années collège, pour l'instant, pour toi. Ouais, c'est horrible.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
C'est surtout dans mon ancien collège. En sixième, c'était insulte en permanence.
Et tu penses souvent à ça ?
Ouais, bah tout le temps.
Tout le temps ?
En cinquième, c'était d'une façon différente. On me tapait pour rigoler, on m'insultait pour rigoler, tout c'était pour rigoler. À la rébus, je me faisais prendre pour une quille, à me balancer des chaussures à la gueule, à me donner des claques encore pour... Quand je voyais que ça me faisait vraiment pleurer, bah là, ils se disaient « Ah ouais, c'est quand même assez grave ». En fait, je découvre un peu le harcèlement. On m'en avait jamais parlé. Du coup, bah, moi, j'essaie en sixième un peu de répondre, de me défendre un peu. Puis
ça marchait pas.
En cinquième, j'ai compris qu'il fallait plutôt laisser tomber.
Il faut que je raconte la suite. En quatrième, Auguste change de collège. Le premier jour, ça se passe bien. Puis après, ça démarre d'un seul coup. En cours de sport, on lui fait des croche-pattes. Il tombe dans le bac à sable. Il en parle à une copine. Quand on parle à la CPE, elle est là. Et là, il y a une conséquence. 9 élèves sanctionnés. Et du coup, ça devient encore pire qu'avant, puisque tout le monde pensait que c'était un traître, au point qu'il s'est mis en tête d'aller voir la CPE en lui disant « j'ai inventé toute l'histoire ».
C'est terrible. Pour moi, c'est ça le plus grave. C'est-à-dire qu'on pense bien faire en se disant on confronte le harceleur, le harcelé, on va mieux défendre les victimes, et ça peut être terrible. On peut arriver même à des actes de suicide. C'est-à-dire que cet ado s'est dit « j'ai menti, personne m'embête, pardon à tous, tout va bien ». Et de s'enfermer là-dedans, c'est terrifiant quand même.
Alors, on va parler des solutions encore. Il y a juste quelque chose qui m'a frappé, Guillaume et Stevie. Vous avez filmé une réunion de formation. Il y a là des thérapeutes, il y a des profs, il y a des CPE et du personnel de l'enseignement. Ce qui m'a frappé, il n'y a aucun homme. Est-ce qu'il n'y en a plus dans ces professions? Ou alors il y en a, mais le sujet du harcèlement ne les intéresse absolument pas?
Je crois que c'est cette deuxième option. C'est-à-dire que même dans l'équipe de Chagrin scolaire, d'Emmanuel Épier, il y a un homme. Pour, alors je crois qu'il y a une trentaine de thérapeutes.
Trentaine de femmes.
29 femmes, un homme. Donc c'est vrai que oui, je pense que c'est une histoire de... C'est la question qui peut-être intéresse plus les femmes.
Alors ce qui est aussi très intéressant dans votre documentaire, c'est qu'il fait entendre des voix discordantes, ou plutôt, pas des voix discordantes, mais des approches différentes. Exemple, Amélie Deveau, elle est thérapeute et formatrice, et c'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle contredit le début de votre film. Elle s'adresse à des enseignants avec deux exemples de harcèlement très précis.
Notre définition à nous du harcèlement scolaire, on s'en fiche. Parce que en fait, nous, nos critères, c'est pas est-ce que c'est du harcèlement ou pas, est-ce que ça rentre dans la définition de harcèlement ou pas. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les enfants en souffrance relationnelle pour les apaiser. Donc, on arrête de faire croire que ceux qui sont harcelés sont les roux et les gros. C'est faux sur absolument toute la ligne. Alors, il y a des enfants roux qui sont harcelés. Il y a des enfants gros qui sont harcelés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont roux ou parce qu'ils sont gros qu'ils sont harcelés. C'est toujours le problème quand on essaye de généraliser, parce que typiquement, quand nous, on dit il faut outiller les enfants harcelés, il faut leur apprendre à se défendre, il y en a beaucoup qui, parce que c'est une généralisation, entendent parce que le problème, c'est l'enfant harcelé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment des trucs que les parents disent, parce que c'est hyper injuste. C'est absolument dégueulasse que ce soit à la victime de changer sa façon de faire. C'est dégueulasse.
Et c'est très intéressant parce que ça contredit la première intervenante qui pense que c'est en partie à l'enfant harcelé de changer sa façon de faire. Je vous laisse réagir à ces deux témoignages.
Mais à défaut, elles disent un peu la même chose, pardon, ouais. Guillaume.
Oui, tu as raison.
Mais Emmanuel continue de dire, c'est terrible qu'on en soit là.
Bien sûr.
Mais on veut quoi? Arriver à dégoûter un enfant ou le faire arriver à supprimer, à mettre fin à ses jours? Où on se dit, ben, défaut, non, je vais l'outiller pour qu'il essaie justement de s'en sortir, de garder son estime et de se construire comme un citoyen, un jeune homme. Donc, oui, c'est dégueulasse. Mais à ce jour, ça nous semble efficace.
Et quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de ne pas en faire justement un dur à cuire qui va terroriser toute la salle de récré. C'est vraiment changer sa façon d'agir avec son harceleur. Donc c'est vraiment changer sa posture. Voilà.
Alors le film se termine sur beaucoup, beaucoup de sourires, et ça aussi c'est absolument neuf et intéressant. Par exemple, à la fin de l'épisode, on découvre que Auguste s'en est sorti grâce à des courriers. Il a écrit aux élèves de sa classe et aux professeurs. J'ai appris d'ailleurs par la même thérapeute, celle qu'on vient d'entendre, que les quatrièmes, c'est l'enfer sur Terre. Elle a dit, les bas-fonds de l'humanité, je ne savais pas que le pire, c'était la quatrième. Vous-même, vous dites que vous n'avez jamais vécu le harcèlement, Guillaume Estévi.
Non, et c'est ça aussi qui me plaisait dans le fait de réaliser ce film, c'est que voilà, j'allais pas non plus être pris d'émotion ou rentrer trop en empathie avec... Je voulais garder une distance un peu froide, ce que fait Emmanuel aussi, parce qu'elle est dans une solution hyper pragmatique, hyper concrète, efficace, parce que dans les cas de harcèlement, il faut agir très vite, d'où l'intérêt de cette thérapie brève. Et donc, le fait vraiment d'être un petit peu détaché de ce problème, ça permettait d'avoir un regard subjectif. Mais
En revanche, pour vous, Mélissa Torio, c'est l'inverse. Vous l'avez subi, sinon le harcèlement, du moins l'isolement, vous l'avez raconté.
Ouais, oui, j'ai raconté. C'est vieux, mais c'est l'isolement, oui, qui est d'ailleurs ce qu'il y a de plus répandu.
Ce que vous avez dit, là aussi, je me suis dit...
C'est ce qu'il y a de plus répandu, l'isolement, vous savez, Philippe. Et c'est pas forcément du harcèlement dans le sens où il n'y a pas d'agression. Mais l'isolement, ça vous annule, ça vous supprime, ça vous fait vous sentir totalement inutile. Et c'est ce qui arrive à une grande majorité d'enfants aujourd'hui.
Je veux dire pourquoi ça m'a intéressé. Vous dites, on n'appellerait pas ça du harcèlement, on appellerait ça de l'isolement. J'ai été isolé longtemps, plusieurs années, mise à l'écart par les autres filles du collège. Et vous ajoutez, pourtant je n'étais ni vilaine, ni jolie, ni cancre, ni brillante. Pourquoi j'en parle? C'est parce que vos parents n'ont rien vu. Et c'est d'autant plus étonnant que vos parents étaient psychologues.
Oui, bon, ça, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mais en effet, j'avais surtout pas envie de les alourdir avec un problème, alors qu'ils réglaient déjà les problèmes de plein de gens qui allaient très mal. Donc j'étais dans une double posture. Et c'est vrai que souvent, les parents, en plus, vous disent « Sois fort, tu vas y arriver ». Et Emmanuel Piquet, ce que vous avez aussi montré dans les extraits, c'est « oh mon pauvre, je me suis dit mince, elle est en surcompassion. Mmh. En fait, elle fait l'inverse de ce qui se passe dans le foyer. C'est, mais c'est très grave ce qui t'arrive, c'est une sorcière ou c'est terrible, mon pauvre. Ouais. Ça veut dire, je prends ta souffrance et je la comprends parce qu'elle est légitime. Mmh. On va travailler ensemble et je vais te donner des outils.
Ouais, alors que nous, parents, on a tendance à dire, je dis nous parce que chez vous avez des enfants, allez, vas-y, pas grave, tu vas voir, ça va aller. Exactement. Demain, ça sera oublié. Non, absolument. C'est pas la bonne attitude.
Pas forcément, en tout cas.
Ouais. On l'apprend dans votre film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Estive. Vous êtes le réalisateur, Mélissa Torio, la productrice Harcèlement scolaire, Les Indiens contre-attaque. Ça sera diffusé demain à 23h sur France 2 dans le cadre des soirées infrarouges portées par Marie Drucker. Il y aura aussi un débat, on n'avait pas le temps de
parler.
Et
c'est juste
aussi
après la vie scolaire qui est formidable. Donc on a beaucoup de chance, on est porté par une fiction de grands talents.
Et on avait beaucoup
super
de chance de vous avoir dans l'émission.
Merci
à vous.
Merci Philippe.
Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Tout à fait autre chose. Nos invités, comédiennes, comédiens Camille Chamou et Philippe Rebaud, viennent pour la comédie Pétaouchnok. Et dans les indispensables, on va découvrir les nouveautés de musique avec Stéphanie Loire. Et l'avocat Roland Pérez, oui, lauréat du prix littéraire Cheval Blanc, va nous présenter son roman Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Une sorte de dieu aussi qui viendra pour sa session de rattrapage. Jean-Luc Lemoine, à tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1.